aux Galates. Alors ceux qui sont là régulièrement savent que nous parcourons cet épître de Paul aux Galates. Et pour résumer un peu tout ce que nous avons dit, l'apôtre Paul écrit cette lettre à ces chrétiens de Galatie parce que ces chrétiens étaient visités par des faux docteurs, des chrétiens d'origine juive qui voulaient imposer le judaïsme aux chrétiens d'origine païenne. Et non seulement cela, ces faux docteurs remettaient en cause l'autorité apostolique, l'autorité avec du titre d'apôtre de l'apôtre Paul. Et donc, se met le trouble dans cette église. Et donc, l'apôtre Paul, dans les deux premiers chapitres, va rappeler à ces chrétiens que, déjà, qu'il n'y a pas d'autre évangile que ceux qu'ils ont reçus. Et que si quelqu'un annonçait un autre évangile, et il va le détailler, cet évangile, après, c'est donc la foi en Jésus-Christ seul qui sauve, et non par les œuvres, non en pratiquant les rites, notamment la circoncision que voulaient imposer ces faux docteurs à ces chrétiens. L'apôtre Paul dit que si quelqu'un annonce un autre évangile, qu'il soit maudit. Et pour rappeler d'où venait son appel, il va donner son témoignage au chapitre 1, rappeler comment il a rencontré le Seigneur. Il va aussi montrer assez simplement que Pierre, Jacques et Jean, les autres apôtres, n'étaient pas supérieurs à lui, mais que tous lui ont donné la main d'association pour que lui, il accomplisse son ministère parmi les païens et eux parmi les juifs. Et même, il raconte cette anecdote où l'apôtre Pierre était là en train de... il y avait un repas fraternel et l'apôtre Pierre s'était retiré, alors qu'il était avec les païens, il s'était retiré parce qu'il avait vu des juifs, et donc l'apôtre Paul n'a pas hésité à reprendre Pierre pour montrer tout simplement que, voilà, Pierre, comme lui, s'il fallait reprendre Pierre, il n'a pas hésité. Et après, au chapitre 3 et 4, il vient sur un peu le fondement, rappeler aux chrétiens que s'ils sont devenus chrétiens, c'est parce qu'ils ont entendu l'évangile qui avait été prêché. Cet évangile, c'est l'annonce de Jésus-Christ par la puissance du Saint-Esprit. Et ces chrétiens de Galates, tout comme les autres, Éphèse, etc., avaient donc mis leur foi en Jésus-Christ suite à la prédication de l'évangile. Et en devenant chrétiens, ils sont devenus héritiers d'Abraham. L'apôtre Paul là explique que Dieu il avait fait des promesses à Abraham, que toutes les nations seront bénies par lui, parce que Abraham avait mis sa foi en Jésus-Christ. À chaque fois je le dis, il avait mis sa foi dans la promesse de Dieu et par anticipation en Jésus-Christ. Mais il avait mis sa foi en la promesse de Dieu et Dieu l'a béni. Et il a dit que toutes les nations seront bénies en toi, et les chrétiens d'origine païenne bénéficient de cela, de cette promesse-là, et ils deviennent héritiers, il est dit, d'Abraham. Et donc, dans ce chapitre 3, il rappelle que la loi a été donnée après que Dieu ait donné cette promesse à Abraham, et que la loi n'annulait pas la promesse que Dieu avait faite. Aujourd'hui, j'aimerais continuer donc le chapitre 4 et vous dire que pour vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, que votre vie peut changer, que vous pouvez changer de condition avec Jésus si vous mettez votre foi en lui. Et pour nous qui l'avons déjà fait, nous rappeler quelle est donc notre condition en Jésus-Christ. Cette condition d'être enfant de Dieu. Et l'apôtre Paul va utiliser donc une image pour expliquer cette réalité. Lorsque une personne se donne à Jésus-Christ, la personne passe d'un état à un autre. Et il va interroger les Galates pour leur dire, mais maintenant que vous êtes devenus enfants de Dieu, comment pouvez-vous retourner en arrière? Parce que c'est là tout le danger pour les chrétiens, c'est de retourner en arrière, c'est remettre en cause la base donc de leur foi, parce qu'ils entendent les choses des autres, et cela crée le trouble en eux. Donc, il est important de bien comprendre ce que nous sommes en Jésus-Christ. Et après, au chapitre 5 et 6, il va parler de choses plus pratiques, parce que ces choses pratiques vont découler de l'enseignement qu'il donne au chapitre 3 et 4. Donc, j'aimerais que nous lisions ensemble les 11 premiers versets de Galates chapitre 4. Alors il dit, or aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connus de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez vous asservir encore? Vous observez les jours, les mois, les temps et les années. Je crains d'avoir inutilement travailler pour vous. C'est difficile cette dernière phrase. Je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. L'apôtre Paul, il y a une pointe de tristesse dans cette phrase-là. Cette tristesse parce que il dit, mais à présent que vous avez connu Dieu, ou plutôt que vous avez été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres rudiments auxquels de nouveau vous voulez vous asservir encore, d'après notre version? Ou bien, avec mes mots, comment après avoir connu Dieu, après avoir eu une relation personnelle avec lui, pouvez-vous ainsi vous détourner de lui pour revenir dans la condition que vous étiez avant votre conversion? Comment est-ce possible? Et donc, là, dans ce passage-là, j'aimerais souligner que nous sommes encouragés à garder finalement, frères et sœurs, les yeux sur notre Seigneur Jésus-Christ pour ne pas retourner en arrière, parce que c'est là la tentation pour beaucoup. Et donc, dans ce passage, j'aimerais souligner plusieurs choses. C'est que il rappelle la condition de l'homme avant sa conversion. Et il y a une petite nuance entre quand il parle au début, dans les versets 1 à 3, et quand il dit « nous aussi », il parle de ceux qui sont d'origine juive. Et après, au verset 8, il parle de ceux qui sont d'origine païenne. Mais, quoi qu'il en soit, quelles étaient leurs conditions, juifs ou païens, avant qu'ils deviennent des chrétiens. Voir ce que Dieu justement a fait pour nous, pour que nous devenions chrétiens, ce que Dieu a fait de nous aussi, mais aussi ce que Dieu attend de nous. Il va changer notre condition, mais c'est pas juste pour dire, voilà, il a changé notre condition et ça s'arrête là. Et l'apôtre Paul va expliquer ce que Dieu il a fait pour l'homme, ce que Dieu peut faire de lui et ce que Dieu attend aussi de lui. Alors, la condition de l'homme est soulignée déjà dans ces trois premiers versets. Il dit, or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout, mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Et donc, il dit, nous aussi, de la même manière, pour dire que il utilise une image là, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde. Et au verset 8, il dit, autrefois, ne connaissant pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Mais à présent, donc il y a un changement. La condition de l'homme, avant sa conversion, avant qu'il ne donne sa vie à Jésus, et ce que nous étions avant notre conversion, et ce que vous êtes là, actuellement, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ, il parle de l'homme comme étant un enfant sous l'autorité d'un tuteur ou d'un administrateur. L'homme qui n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ est comme un enfant, il dit, qui est conduit, dirigé par un administrateur ou un tuteur. Alors, l'image qu'il utilise là, c'est comme dans les familles bourgeoises, les grandes familles, où le père, la mère ont plein de responsabilités et ils n'ont pas le temps de s'occuper de l'éducation de leur enfant. Et donc, ils confient l'éducation de leur enfant à un gouverneur ou une gouvernante. Et l'apôtre Paul parle d'administrateur, ou avant il parlait de précepteur. Et donc ces personnes, et du temps de l'apôtre Paul, c'était des personnes même qui étaient esclaves, mais qui avaient une place dans la maison, une place importante, et qui avaient cette responsabilité d'accompagner, d'éduquer l'enfant qui est l'héritier de la maison, mais qui ne bénéficie pas encore de cet héritage. Mais il va accompagner cet enfant, l'éduquer, lui apprendre toutes les choses dont il a besoin pour que lorsqu'il sera considéré comme adulte, il pourra donc jouir et diriger les choses selon que le père va décider. Donc il utilise cette image et donc il dit que nous sommes... que l'enfant, il dit, ne diffère en rien d'un esclave. Bien qu'étant enfant, il ne diffère en rien de l'esclave parce que c'est l'esclave qui va l'éduquer. Et même, parfois, ils disent que les esclaves étaient même assez sévères. Et donc, c'est pour préparer cet enfant pour assumer son rôle par la suite. Et il parle d'esclave. Qui ne diffère en rien d'un esclave. Il dit, verset 3, nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, donc avant la conversion, nous étions sous l'esclavage des principes élémentaires du monde, où ceux qui ne connaissaient pas Dieu, vous serviez des dieux qui ne le sont pas de leur nature. Donc voilà votre condition. Voilà, telle était notre condition avant. Donc, il dit que celui qui ne connaît pas Dieu, il est comme un enfant qui est sous l'autorité d'un précepteur. Il est comme un esclave et il est esclave de la loi. La loi, avec toutes ces règles qui étaient fixées, que l'enfant devait obéir. Et la loi, c'est ce à quoi ces faux docteurs voulaient que ces chrétiens redeviennent sous l'autorité de la loi. Mais l'apôtre Paul, il dit que, en fait, la loi, il dit au verset 10 du chapitre 3, « Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est dit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi. » On est esclave de la loi, on est esclave du péché. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ soulignait dans l'évangile de Jean, chapitre 8. Il dit, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Donc, lorsqu'on n'est pas en Christ, on est esclave du péché. On est esclave du diable, de Satan. C'est l'apôtre Paul qui le souligne dans 2 Timothée quand il dit, les personnes qui se repentent se dégagent, il dit, des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. On ne se rend pas compte de cela. Être l'esclave du diable et on se soumet à sa volonté. Il parle donc des principes élémentaires, de toutes ces règles que la religion a inventées, les traditions des hommes ont imposées. Il dit, voilà, nous sommes esclaves, nous étions esclaves de tout ça, il faut faire ceci, il faut pas faire cela. Et même dans Colossiens, l'apôtre Paul, il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde et non sur Christ. Donc, du temps de Jésus, les pharisiens reprenaient souvent Jésus-Christ, mais tes disciples, ils se sont pas lavé les mains, ils n'ont pas fait ceci, ils n'ont pas fait cela. Ils s'appuyaient sur les traditions des hommes. Et lorsqu'on ne connaît pas Jésus-Christ, on est esclave de toutes ces règles établies par les hommes. Esclave des faux dieux, comme il est souligné au verset 8. Quand il dit, ne connaissant pas Dieu, vous servez des dieux qui ne le sont pas. Lorsque, lors de son premier voyage missionnaire, l'apôtre Paul, on l'a pris pour un dieu, Jupiter et Mercure, dans Actes chapitre 14. Il était avec Barnabas et les gens se sont mis à les adorer. Il dit, mais arrêtez, là, nous sommes des hommes comme vous. Ces gens-là croyaient en Jupiter, Mercure, etc. Donc, voilà la condition de l'homme avant qu'il se tourne vers Jésus-Christ. Et j'aimerais vous poser cette question, mais de quoi êtes-vous esclave? De quoi êtes-vous esclave? On peut être esclave de bien, de bon nombre de choses. Et parfois, on ne se rend pas compte. On le fait par habitude, mais on est esclave. Et vous dire que le Seigneur veut vous délivrer de cet esclavage. Dans le chapitre 3, versets 23 à 25, il dit, « Avant que la foi vienne, vous étiez enfermés sous la garde de la loi en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un précepteur pour nous conduire à Christ. » Donc, le but de la loi, c'était ça, d'être ce précepteur qui va nous accompagner, nous qui sommes enfants, jusqu'au jour où nous allons devenir adultes, au moment où nous allons nous tourner vers Jésus-Christ. Et donc, la loi va faire ce travail, nous révéler que nous sommes des pécheurs et que nous avons besoin de Jésus-Christ. Alors, aujourd'hui, j'aimerais vous dire, aujourd'hui est le jour où vous pouvez passer du statut d'enfant au statut d'adulte. Si vous comprenez l'analogie, on est enfant tant qu'on n'a pas donné sa vie à Jésus-Christ. on est encore esclave, on est sous ce précepteur qui est la loi, on est esclave, comme on l'a dit, de faux dieux, etc. Et Dieu voudrait que nous sortions de cette condition d'esclave pour devenir un adulte, quelqu'un qui est accompli dans le Seigneur. Et aujourd'hui est le jour où vous pouvez changer de condition. Vous savez, dans la foi juive, la religion juive, il y a pour les jeunes un moment où ils passent de la condition d'enfant à celui d'adulte. Et les Juifs appellent ça la bar mitzvah, ou bat mitzvah pour les filles. Donc c'est vers l'âge de 12-13 ans, 12 ans pour les filles, 13 ans pour les garçons, c'est l'âge où l'enfant ou ce jeune est considéré comme adulte et apte à venir dans la synagogue, ouvrir la parole de Dieu et lire. Et Jésus-Christ, à 12 ans, il s'est retrouvé assis avec les docteurs de la loi et il leur a expliqué la parole de Dieu. Mais tant qu'il n'avait pas cet âge-là, il pouvait pas. Et donc, ce qu'on appelle un rite de passage, qui est que, voilà, cet enfant qui a grandi dans la maison était sous ce précepteur, et voilà qu'il arrive à l'adolescence, à la puberté, etc. Il va passer, donc avoir ce rite de passage, la bar mitzvah, et il sera considéré comme adulte, et il peut se retrouver avec les autres, plus âgés que lui, pour lire la parole de Dieu. Et j'avais trouvé que le garçon, il fait une prière, il dit « Oh mon Dieu et Dieu de mon Père, en ce jour sacré et solennel qui marque mon passage de l'enfance à l'âge adulte, je lève humblement les yeux vers toi et déclare avec sincérité et vérité que désormais je garderai tes commandements et que j'accepte la responsabilité de mes actes devant toi. » C'est une belle prière. Mais c'est très fort. À ce moment-là, il dit, voilà, que je m'engage à garder tes commandements et j'accepte la responsabilité de mes actes devant toi. Et donc, là encore, j'aimerais vous dire, mais est-ce que vous avez fait votre bar mitzvah? Est-ce que vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte? Est-ce que vous êtes devenu, tout simplement, un enfant de Dieu? Et pour nous, frères et sœurs, est-ce que nous nous souvenons de ce moment-là? De ce moment si important où nous avons dit, oui Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Je vais t'aimer, ta parole sera importante pour moi, etc., etc. Après quelques années, est-ce que nous nous souvenons de ces paroles? De cet engagement que nous avons pris devant Dieu? Lorsque nous nous sommes tournés vers lui, nous avons dit oui, qu'on croit en Jésus-Christ. Qu'en est-il de cet engagement? Donc l'apôtre Paul utilise donc cette image du passage de l'enfance à l'adulte pour dire au fait aux chrétiens, mais vous n'êtes plus sous ce précepteur. Vous êtes maintenant un adulte, vous êtes maintenant considéré comme fils, et donc vous pouvez jouir pleinement de toutes les bénédictions du Père. La Bible nous dit que si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et l'apôtre Paul rappelle que nous avons été rachetés à un grand prix et dit donc, ne devenez pas esclaves des hommes. Donc nous ne sommes plus esclaves. Et le danger, c'est de redevenir esclaves des hommes. Donc le Seigneur nous a libérés. Le Fils nous a affranchis, Dieu nous a libérés, Et le danger pour nous, c'est de vouloir, malgré nous, mais vouloir redevenir esclave. Alors chacun doit se poser la question, est-ce que je suis encore esclave ou est-ce que je suis redevenu esclave? De quoi suis-je esclave? Alors je peux vous dire que si vous reconnaissez cet état et que vous humiliez devant Dieu, Dieu peut vous changer, vous transformer et faire de vous non un esclave, mais un enfant de Dieu. Vous serez appelé fils de Dieu, et c'est ce qui est souligné dans les versets 4 et suivants. Donc, pour nous faire passer de la condition d'enfant qui était sous le précepteur à le fils adulte, qui est personne considérée comme adulte, donc, Dieu, ce qu'il a fait, il a envoyé son fils. Il fallait que le Père envoie son fils Jésus pour qu'il donne sa vie, que son fils prenne sur lui le péché des hommes pour libérer l'homme de son esclavage. L'autre chose, c'est que non seulement il est dit au verset 4, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, donc qui étaient esclaves, afin que nous recevions l'adoption. Donc, pour passer de cet état d'esclave à fils, il a fallu que le Père envoie son fils, Jésus-Christ, qui donne sa vie. Et le texte souligne les deux choses. Quand il parle de fils, Dieu a envoyé son fils, c'est un titre qui parle de la divinité de Jésus-Christ, et il dit qu'il est né d'une femme, et l'apôtre Paul souligne là toute l'humanité aussi de Jésus-Christ. Et donc, il a fallu que Dieu se fasse homme pour vivre parmi les hommes et donner sa vie pour libérer l'homme de son esclavage. Et donc, le Seigneur, il est venu à un moment de l'histoire, et il a vécu parmi les hommes, et nul ne peut nier cette réalité. Alors, ce que le Seigneur a fait pour nous, il est dit au verset 6, « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils, si tu es, et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » C'est là ce que Dieu a fait, ce qu'il a fait de nous. Il a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils pour nous qui avons mis notre foi en Jésus-Christ. Tout comme Abraham avait mis sa foi dans la promesse de Dieu, nous qui avons mis notre foi en Jésus, le Seigneur nous dit qu'il a envoyé en nous l'Esprit de son Fils, donc le Saint-Esprit, et pour que nous devenions donc des enfants de Dieu. Donc vous êtes fils. Et le Seigneur, il avait promis à ses disciples l'envoi du Saint-Esprit, et ça s'est produit à la Pentecôte. Et depuis la Pentecôte, tous ceux qui mettent leur foi en Jésus reçoivent le Saint-Esprit. Alors, quels sont les bénéfices de cela? C'est que le fait d'avoir l'Esprit de Dieu en nous, le fait de devenir enfant de Dieu, le Seigneur nous a libérés de toute forme d'esclavage. Dans 1 Corinthiens, l'apôtre Paul dit au chapitre 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Maintenant que je suis un enfant de Dieu, maintenant que je suis considéré donc comme un adulte, il n'y a pas question pour moi de redevenir esclave de quoi que ce soit, ou de qui que ce soit. Et l'Esprit de Dieu que nous recevons nous donne la force de dire non à la tentation, non au désir de notre nature pécheresse. C'est parce que nous avons l'Esprit de Dieu que nous pouvons dire, pas question pour moi d'être esclave de quelque péché que ce soit. Et si vous avez le sentiment d'être esclave d'un péché, alors vous oubliez cette réalité que l'Esprit de Dieu que vous avez reçu vous donne la force pour pouvoir dire non à ce péché. Il a fait de nous ses enfants, des enfants par adoption, puisque nous sommes des fils, fils de Dieu, il est dit, dans Romains 8, il dit « L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. » Donc, nous recevons ce témoignage intérieur et nous sommes aussi des héritiers par la grâce de Dieu. Il avait déjà parlé au verset 29 du chapitre 3, il dit « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. » Donc, il a dit « Si tu es fils, tu es aussi héritier. » Par la grâce de Dieu, dans un autre passage, il dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Jésus-Christ. Et la dernière chose, donc, qu'est-ce que Dieu attend de nous? Il a, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a envoyé son Fils. Il a fait de nous ses enfants. Maintenant, qu'est-ce qu'il attend de nous en tant que chrétiens? Dans ce verset 8 à 11, il dit, puisque nous avons connu Dieu, donc, par la conversion, comment pouvons-nous revenir en arrière? Ce que Dieu attend de nous, ce que Dieu attend de tous les chrétiens, c'est que une fois que vous avez pu goûter à toutes ces grâces, comment pouvons-nous retourner en arrière? Ceux qui sont tentés d'abandonner la foi, ceux qui sont tentés de se séparer de la communion des frères, c'est retourner en arrière. Alors, faisons attention. Faisons attention. Il y a cet engagement, on avait dit, cet engagement à obéir au commandement de Dieu, mais aussi cet engagement à assumer ses responsabilités. Et là, en tant que chrétien, notre responsabilité, c'est pas de retourner en arrière, c'est de continuer à avancer. Continuer à aller de l'avant, continuer à servir notre Dieu de mieux en mieux. Et c'est ce que le Seigneur attend. Dans Thessaloniciens, il est parlé, on peut lire ce passage ensemble avant de terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Thessaloniciens chapitre 4, il est dit au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. Vous savez en effet quels préceptes nous vous avons donnés de la part du Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Celui donc qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu vous a donné son Saint-Esprit, et ce qu'il attend de vous, c'est que vous recherchez la sanctification, ça veut dire que vous cherchez à ressembler de plus en plus à Dieu, parce que Dieu est saint et ce qu'il veut, c'est que nous soyons saints. Donc, c'est pour ça que l'apôtre Paul, il dit, « Wow, je crains d'avoir inutilement travaillé pour vous. » Et c'est là toute la tristesse, je dirais, de l'apôtre, du pasteur, c'est de voir que après toutes ces années, les chrétiens retournent en arrière. Et ces chrétiens qui retournent en arrière, c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas compris ces vérités. Mais comment pouvons-nous retourner en arrière lorsque nous avons goûté à tout cela? Donc, c'est là ce que Dieu attend de nous. Ne pas retomber dans des principes élémentaires, ne pas être esclave de quoi que ce soit. Et je vais juste lire ce texte de Hébreux chapitre 2. Il dit au verset 1, « C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut ? Le salut annoncé d'abord par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par les signes, des prodiges et divers miracles et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Donc là, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut? Frères et sœurs, que vous ne puissiez pas négliger ce si grand salut. Chers amis, que vous ne puissiez pas négliger ce salut qui vous est offert. Le Seigneur est venu pour vous libérer de toute forme d'esclavage. À vous d'accepter ce moyen de salut, de vous tourner vers lui et lui dire tout simplement, « Oui, je reconnais que je suis un pécheur, je te demande pardon et je veux mettre ma confiance, ma foi en Jésus-Christ. » Et en le faisant, la Bible dit que vous devenez enfant de Dieu, vous recevez son esprit et le Seigneur vous donne, fait de vous son enfant et vous devenez héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. Donc oui, en croyant en Jésus, on change de condition. On passe de l'esclave à celui qui est libre. On passe de l'esclave au fils, celui qui ne pouvait pas jouir des bénédictions, et à celui qui peut jouir de toutes les bénédictions. La Bible nous dit que Dieu nous a bénis de toutes les bénédictions qui sont dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, tout est à nous de ne pas négliger ce si grand salut. Que le Seigneur nous bénisse, nous aide à vivre cette vie chrétienne qui est une très belle vie. C'est la plus belle des vies, mais à condition que nous soyons conscients de tout ces pépites, ce trésor que le Seigneur a en réserve pour chacun de nous. Voilà, qu'il nous bénisse tous. Amen.